et par actualité. Bonjour à tout le monde, Clotilde Seille au micro de Canal M pour l'émission Les Paractualités. Nous sommes le 18 octobre et aujourd'hui, en ce 18 octobre, parmi les titres qui seront traités, la 5e édition du prix à part entière, l'entrevue du jour avec Steven Laperrière, vice-président du RAPLIC et auteur du roman La ville handicapée, inspiré de la vie de Linda Gauthier, dont c'est le lancement de ce livre ce soir. Également en région, la maison Gilles Carla rouvre ses portes à Cowansville et Zachary Richard à la cause des enfants handicapés qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, l'organisme du jour, c'est la présidente du CA de Kérou, Isabelle Ducharme, qui revient d'un séjour à San Francisco et qui va tout nous raconter. Et puis aussi aujourd'hui, le frère André, désormais saint patron des aidants naturels.
Avec ou sans bagage, j'y consacre mon temps, j'y ai mis tous mes âges, entraînant ici là mon monde sur mon dos, dans des plaines ou des puits, dans des plaines ou des puits, j'ai été d'état en état sans changer de pays, j'ai été.
Alors, 5e édition du prix à part entière, l'Office dévoile le nom des finalistes de la catégorie. Ministère et leur réseau, organismes publics et parapublics, l'Office des personnes handicapées du Québec a rendu public aujourd'hui la liste des finalistes du prix à part entière 2016. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréat du prix à part entière. C'est un événement qui sera organisé en lien avec la Journée internationale des personnes handicapées qui a lieu le 3 décembre chaque année. Le prix à part entière qui couronnera ses lauréats lors d'une cérémonie qui se déroulera le 18 novembre prochain à l'Hôtel du Parlement. Voici la liste des finalistes du prix à part entière 2016 dans la catégorie ministère et leur réseau, organismes publics et parapublics. On parle du CIS de Montérégie Ouest, Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval, accueil et soutien pour les étudiants en situation de handicap, Université du Québec à Rimouski, la Commission de la construction du Québec, le CIUS Mauricie et Centre du Québec, qui a proposé un circuit de conditionnement physique adapté aux personnes ayant des incapacités physiques. Le prix à part entière est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec en collaboration avec le partenaire principal de l'événement. Hydro-Québec, il vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé notamment de M. Stéphane Laporte. Et puis une famille en plein désarroi, si on peut faire quelque chose pour ces gens-là. Ils ont un jeune garçon de 4 ans qui souffre d'une maladie dégénérative très, très rare. En plus d'avoir à accepter ce verdict-là, les parents de ce petit garçon qui sont de Saint-Charles sont aussi à la recherche de solutions pour leurs enfants, pour ce petit bonhomme-là. Je suis désolée, je ne retrouve plus le titre de la maladie dont il souffre, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est vraiment pas de la tarte. Le petit garçon qui s'appelle Liam Philippe, entre autres, fait de la fièvre. Et quand on parle de fièvre, ce n'est pas du 38 ou du 39, mais bien du 40 ou du 42. Imaginez un peu le désespoir des parents qui doivent payer pour chaque traitement bimensuel. aux 2 mois plutôt, ils doivent payer 18 000 $ par injection. Évidemment, ils n'ont pas cette somme-là. Alors, il y a des amis de cette famille qui ont décidé de leur venir en aide via, vous l'imaginez, le web. Je peux vous donner le nom du site, mais le mieux, ce serait d'aller sur notre site à nous, en espérant que tout fonctionne bien. Aujourd'hui, si vous allez sur le site, dans les parts actualités du jour, vous trouverez l'endroit où vous pourrez éventuellement aider ces gens-là pour leur petit garçon, Liam Philippe. Il est vice-président du Rapplic depuis presque 2 ans et il est aussi l'auteur du roman La ville handicapée qui est lancé ce soir, un roman inspiré de la vie de Linda Gauthier. D'ailleurs, je vais être au lancement, monsieur Laperrière. Bonjour, Stephen Laperrière.
Bonjour à vous, vous allez bien?
Oui, ça va très très bien, vous-même?
Très bien, merci.
Bon, alors ça y est, enfin, c'est le grand jour.
Oui, le grand jour est enfin arrivé après des mois d'écriture et des semaines de préparation à ce grand jour. On y est enfin.
Mm-hmm. Écriture, réécriture, réécriture.
Exactement. Bon. Et avec l'aide d'une éditrice magnifique, les éditions La Goupille, tout est tombé en place pour arriver à ce grand jour enfin.
Bon, ben écoutez, tant mieux. Et je précise d'ailleurs tout de suite à nos auditeurs que le livre sera bien évidemment enregistré en version adaptée pour que, bien sûr, tout le monde, y compris les personnes non-voyantes ou en difficultés perceptuelles quelconques, puissent en profiter. Alors, M. Laperrière, pourquoi vous êtes-vous engagé, vous, au Rapplic?
Bien, j'ai commencé en 2012, je me suis impliqué sur la scène municipale, sur la scène politique municipale, et j'ai fait la rencontre de Mme Gauthier au fil des semaines. Et au fil des rencontres, Mme Gauthier m'a sensibilisé à plusieurs choses que je prenais pour acquis. Ça a été un choc pour moi d'apprendre qu'à ce moment-là, il n'y avait que 8 stations de métro accessibles dans le réseau de métro montréalais. Ça a été vraiment un choc parce que je croyais un peu comme tout le monde que l'accessibilité universelle, c'était quelque chose qui avançait à grands pas et que ça avançait, mais c'était pas le cas. En tout cas, pas assez vite, certainement. Et puis, tous les autres problèmes reliés à la vie, à mobilité réduite. Vous savez, pour moi, le matin, je me lève, brosse les dents, saute dans le pantalon, chandail dans l'auto, puis on est prêt à entamer une nouvelle journée. Mais pour certaines personnes, c'est pas aussi simple que ça. Et je trouvais que le sujet n'avait pas été documenté. Pas assez. Donc, je me dis, parce que je considère que je suis quand même une bonne personne, mais je ne savais pas ces choses-là. Je n'y avais jamais songé parce qu'on n'en avait jamais parlé.
C'est bien de l'avouer, mais nous sommes tellement nombreux à avouer cela. Hein?
Bien, exactement. Alors, c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là. C'est vraiment essayer de démystifier cet aspect-là des gens sans tomber dans le misérabilisme à outrance. C'est clair qu'il y a des choses qui se passent, c'est pas drôle. Mais il y a quand même des belles choses parce qu'on découvre en jasant avec les gens, mais il y en a qui étudient, au doctorat.
Bien sûr.
Des gens travaillent, des gens étudient, ont une vie sociale, ont une vie familiale et il y en a même qui sont parents.
Alors, mais oui, bien sûr. Et beaucoup en plus. Et d'ailleurs, c'est même pour ça qu'on a vu naître ce mouvement, vous en avez sûrement entendu parler, du capacitisme, quoi, parce que finalement, les personnes handicapées ne veulent pas être reconnues pour leur handicap, ni surtout pas admirées pour leur handicap, parce qu'ils se considèrent comme des gens comme tout le monde, quoi.
Ben, exactement. Et de là, le titre du livre, La ville handicapée, parce que je considère, comme beaucoup de personnes, que ce qui handicape les gens, ce n'est pas leur fauteuil roulant, ce n'est pas leur manque de mobilité, mais c'est le manque d'accessibilité qu'ils ont partout. Oui. Je veux dire, une simple marche, quand tu n'es pas sensibilisé à ça, puis que tu as tes deux jambes, puis que tu es en pleine forme, une petite marche, tu passes par-dessus, tu n'y penses même pas. Mais pour certains, ben c'est comme gravir le mont Everest, là. Donc, c'est cette mentalité-là qu'il faut changer un peu. Et c'est un peu ça que j'ai voulu aller toucher dans ce livre-là.
Eh bien, écoutez, on y trouve quoi, alors? Est-ce que c'est une histoire romancée avec une personne qui serait donc Linda, qui apparemment s'appelle Josiane, c'est bien ça, mais est-ce que c'est un roman ou est-ce que ce sont des témoignages?
En fait, le personnage central s'appelle Josiane Gagnon et son histoire est inspirée de celle de Linda.
D'accord.
En grande partie.
Bon.
Mais le prétexte, le fil conducteur de l'histoire est un peu que Linda, Josiane, qui prend une jeune danseuse sous son aile et l'amène vers un objectif. Mais tout le prétexte de la situation de Linda l'amène à faire des rencontres de d'autres personnes handicapées qui vivent des situations particulières, parfois drôles, parfois tristes. Mais toutes les anecdotes, si les circonstances sont romancées, parce que certaines personnes m'ont confié des choses qui ne voulaient pas se faire reconnaître, donc j'ai dû changer certains faits, si on veut, qui mènent à l'anecdote. Mais toutes les anecdotes qui sont racontées là-dedans sont vraies et véridiques et ont été vécues par une personne handicapée en quelque part.
Donc, si vous aviez à le vendre là en ce moment, ce livre-là, vous diriez qu'il s'adresse évidemment à toute la communauté, pas seulement des personnes handicapées, mais bien tout le monde, parce que tout le monde va y retrouver son compte. Nous qui ne le sommes pas handicapés, quoique, remarquez, non, mais je veux dire, vous savez, qu'est-ce qu'une personne handicapée, hein? Ça commence où? Ça s'arrête où? Je trouve que parfois, la limite est assez ténue, hein? Je pense qu'on est d'accord là-dessus.
Absolument.
Alors, donc, j'imagine que, en tout cas, ce que je souhaite à ce livre-là, c'est qu'on en parle beaucoup dans les médias d'importance.
Bien, je le souhaite aussi parce que c'est un livre qui a été conçu, comme vous le disiez si bien, pour tout le monde.
Ben oui.
C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas sensibilisés à la vie en fauteuil roulant, à mobilité réduite, vont apprendre certaines choses, j'en suis certain. Et ce qui est important aussi, c'est que les personnes qui sont à mobilité réduite ou en fauteuil handicapé, vont se reconnaître. Et je suis certain que parfois, elles vont rire, vont pleurer. Elles vont surtout se dire que, garde, t'es pas toute seule à vivre ce que tu vis.
C'est ça. Puis d'après ce que je comprends, j'ai pas encore lu ce livre, mais on est très, très loin du pathos, là. Très, très, très loin.
Ah oui, mais j'ai pas voulu justement
non,
que ce
ça.
Soit un livre misérabiliste.
Non.
Difficulté, page après page.
Voilà.
Il y a de très, très bonnes histoires. Puis vous savez, souvent, on parle beaucoup contre le transport adapté et tout ça. Mm. Mais il arrive parfois qu'il y a de belles histoires.
Oui.
Et il y en a deux, trois là-dedans aussi.
Oui.
Juste un chauffeur qui fait un petit pas de plus pour faire la différence dans le transport de quelqu'un, dans le confort ou pour aider. C'est pas grand-chose, mais ça fait un monde
c'est
de
énorme.
Différence. Parfois,
bien
il y en
sûr.
A des histoires comme ça.
Écoutez, en tout cas, moi, comme je vous le disais, je serais ravie d'être là ce soir. C'est le lancement de La Ville handicapée qui sort aux éditions La Roupie. C'est un 5 à 7 au restaurant Mochica, sur la rue Saint-Denis. C'est bien ça?
C'est bien ça, au 3863 rue Saint-Denis.
D'accord, 3863 rue Saint-Denis. Et j'avais au bout du fil M. Steven Laperrière. M. Steven Laperrière, je vous lance tout de suite l'invitation. Dès que le livre sera enregistré pour le SQLA, donc pour le Service québécois du livre adapté. J'aimerais beaucoup que vous veniez à mon émission avec Linda Gauthier. L'émission s'appelle « Des livres plein les oreilles » et nous évoquons comme ça la sortie de nouveautés audio ou encore en braille, etc. Alors, vous serez là?
Eh bien, l'invitation est acceptée d'emblée.
D'accord, M. Laperrière. Je vous souhaite une très belle fin de journée.
Merci à vous de même. Merci.
Au revoir.
Beaucoup. Au revoir.
Par actualité régionale, la maison Gilles Carle a rouvert ses portes lundi à Cowansville. L'organisme avait dû être fermé temporairement en juillet dernier en raison de difficultés financières. Les employés sont de retour au travail pour mettre en place les calendriers et pour contacter les proches aidants qui auraient besoin de répit. Suzanne Balger, dont la mère a des problèmes cognitifs importants, fait partie de ces personnes qui utilisent les services de la maison Gilles Carle. Deux après-midi par semaine, sa mère allait y passer du temps. Ces moments étaient fort précieux pour Mme Balger qui utilisait ce temps pour se reposer ou pour faire des courses. « Je suis soulagée », a-t-elle dit, « et j'espère qu'on n'aura plus à revivre ce genre de situation. J'en ai besoin de cette maison-là. C'est du bonbon. C'est mon seul bonbon. » Les services ne reprendront pas à 100% cependant. Par exemple, il y aura moins d'heures d'intervention. Au cours de la dernière année, il faut comprendre que l'établissement a perdu 66% de ses subventions, soit une somme de 186 000 $ et en tout, 211 000 familles bénéficient des services de la maison Gilles Carle. Également, les enfants handicapés, c'est une cause qui tient à cœur à Zachary Richard. Zachary Richard sera en spectacle vendredi au Théâtre Restigouche de Campbellton au profit de l'organisme Chant des Anges. Zachary Richard qui n'a pas hésité une seconde avant d'accepter. Il prêtera pour l'occasion sa voix au Chant des Anges, cet organisme qui propose des joutes de baseball adaptées et amicales aux jeunes du Restigouche souffrant d'un handicap physique ou intellectuel. Zachary Richard qui dit avoir des raisons personnelles aussi de soutenir l'initiative, notamment parce que son propre petit-fils, Émile, souffre de troubles neuromoteurs. Et au-delà de ça, bien, il se trouve que le petit Émile en question va venir de France pour participer aussi à ce spectacle-là qui aura lieu vendredi en soirée à 20h. Les billets seront disponibles à la porte au Théâtre Restigouche de Campbellton. Et la chanceuse qui est allée passer un petit moment à San Francisco. Pardon Isabelle, je m'en étouffe. Isabelle Ducharme, présidente du CA de Kerroule. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors, vous êtes revenue quand?
Ça fait à 2 semaines.
Excusez-moi, j'ai vraiment un gros chat dans la gorge et pardonnez-moi Isabelle.
Alors, mais je comprends votre émotion parce que moi, ça faisait partie des endroits que je voulais absolument visiter une fois dans ma vie.
Oui.
Maintenant que j'y suis allée, je veux définitivement y retourner.
Ah oui, hein?
C'est un endroit vraiment magnifique.
Mais oui, j'avais assisté assez récemment à une entrevue avec je ne sais plus quel journaliste qui faisait le parallèle entre New York et San Francisco et qui disait
ouais,
que...
C'était Marie-Joël,
oui.
qui avait fait longtemps des chroniques de New York.
C'est ça. Ah, voilà, c'est ça.
Et maintenant a découvert San Francisco et est tombée également en amour avec
voilà.
San Francisco.
Alors, vous êtes tombée en amour. On sait que c'est une ville où il y a beaucoup de rues en pente, hein, San Francisco.
Oui.
Vous êtes une personne handicapée, Isabelle Ducharme. Comment ça se passe là-bas pour l'accessibilité, pour se déplacer, pour tout ça? Comment ça se passe?
Bien, en fait, il faut d'abord expliquer que c'est une ville qui nous charme dès son arrivée par
oui.
son architecture, par
oui,
ses,
oui, oui.
Et effectivement par ses pentes incroyables
oui.
qu'on a tous vu en images, soit au cinéma, dans des émissions de télé, etc. Et c'est effectivement aussi en pente qu'on le voit, sinon plus. Je vous avoue que quelquefois, bien que je sois en fauteuil motorisé, je regardais la personne qui m'accompagnait, je lui disais, bon, ça va aller pour monter avec le fauteuil motorisé, mais quand je vais redescendre, comment je vais faire pour garder mon
oui.
équilibre? Mais avec le temps, on découvre des petits trucs comme des fois, 2-3 rues plus loin, il y a une rue qui est moins en pente. Donc, on fait le détour, puis on passe par cette rue-là.
Ah oui, exactement.
Et ça n'enlève aucun charme à la ville.
Vous savez que les cyclistes font ça, hein? Ils évitent la montée de la rue Berry, par exemple, et ils aiment mieux en trouver
voilà.
une sur le côté.
Oui, oui. C'est vraiment...
Oui.
On prend des trucs, c'est mm-hmm. pas tellement long. Sinon, les gens, je vous avoue que... une autre chose qui m'a beaucoup charmée là-bas, c'est qu'en me déplaçant
oui.
dans différents quartiers, partout, les gens étaient avenants, ouverts, gentils.
Mm-hmm.
Comme j'y suis allée d'abord pour un congrès sur les réglementations du transport, incluant le transport adapté, donc pour représenter Kerroule, mais en même temps, j'ai visité autant le quartier des affaires que les quartiers plus touristiques,
oui,
les quartiers
oui,
un
oui.
peu plus isolés. Et partout, vraiment, on sentait que... j'ai même pris l'autobus à un certain moment et on n'avait pas exactement l'argent que ça prenait. Et j'ai vu, dès qu'on a dit ça, des gens assis dans les premiers sièges qui regardaient s'ils ne pouvaient pas nous aider avec un peu de monnaie. Ce que je vois, ce que j'ai vu aussi qui a été agréable côté service et accessibilité, c'est y a un système de transport là-bas qui est quand même assez accueillant de façon générale,
mm-hmm.
mais le Muni, qui est l'espèce de transport public avec des autobus à plancher abaissé comme nous avons ici à Montréal,
mm-hmm.
Les chauffeurs n'hésitaient pas à se lever puis à dire aux gens de se déplacer parce qu'il y avait une personne en fauteuil roulant qui était pour rentrer. Je vous avoue qu'ici à Montréal, j'entends plusieurs histoires de faut se débrouiller, faut nous-mêmes demander aux gens de se lever, etc.
C'est terrible, hein?
Oui, vraiment. Puis il y a aussi tout le réseau, le BART, qui appelle le Bay Area Rapid Transit, qui est un système de train de banlieue qui nous amène de l'aéroport au centre-ville ou qui nous amène aussi à l'extérieur de San Francisco
mm-hmm.
Pour se diriger vers l'Université de Berkeley, que beaucoup de gens connaissent. C'est un système qui est 100% accessible. Donc, il n'y a pas de casse-tête quand on veut se déplacer. Il y a toujours une solution. Il y a des taxis accessibles. Il y a vraiment une panoplie de choses qu'on peut faire qui sont facilement accessibles.
Et comment la population, vous l'avez dit, hein, vous avez l'impression que l'entraide est facile. L'inclusion, ben, on a l'impression aussi, mais... Moi, j'ai toujours peur un petit peu et je me dis toujours, est-ce que le fait de visiter tout d'un coup une ville toute neuve, le fait qu'on soit emballé par la ville, par son architecture, on n'y vit pas? Vous savez,
oui.
Non, hein,
et, oui, absolument.
Et est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'au niveau de l'inclusion et de l'accessibilité, on est une coche au-dessus ou est-ce que c'est peut-être un regard un peu touristique et je ne sais pas, je me fais l'avocat
oui,
du diable, ça m'arrive.
Non, je comprends. Je sais que quand on lit un peu dans les livres touristiques, quand on lit sur les blogs, etc., même de gens qui y vivent ou des gens de l'extérieur, on entend souvent parler d'une ville agréable, d'une ville où c'est une commune un peu encore, hein, San Francisco,
ah oui,
on se souvient,
oui.
Ça a été un peu le bassin des hippies, c'est
oui.
L'inclusion des personnes homosexuelles,
oui.
C'est beaucoup de choses qui font que, oui, je pense que même en y vivant, il y a quand même une ouverture vers le monde. Plusieurs en parlent comme « everybody's favorite city », donc celle la ville qui plaît à tout le monde. Je pense que oui. La seule chose que je vous dirais qui est plus difficile, c'est que tout est dispendieux.
Ah
donc,
oui, hein, le coût de la vie. Hein.
Oui, il faut se préparer un bon budget.
Pardon.
Puis en plus, pour nous, Canadiens, qui devons payer le taux de change, ça joue aussi.
Oui.
Donc,
il
faut définitivement se préparer un budget supplémentaire que peut-être si on allait ailleurs au Canada ou des déplacements moins loin. Là.
Ben oui,
Mais ça vaut le déplacement. Il y a tellement de belles choses à voir.
Bon.
À San Francisco et dans les environs.
D'accord. Ben écoutez, puis vous serez d'accord avec moi, hein, pour terminer, on va rappeler que les gens peuvent se procurer justement ce livre de Marie-Joëlle Parent, 300 raisons d'aimer San Francisco, aux éditions de L'Homme, hein, pour se souvenir qu'il n'y a pas que les rues en pente.
Voilà.
Et qu'on peut très bien
les contourner,
tous ces petits problèmes-là. D'accord. Ben écoutez, je m'entretenais avec Isabelle Ducharme, présidente du CA de Kéroul. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir participé à cette émission.
Ça fait plaisir.
On va se retrouver encore une fois, certainement, ou même plusieurs durant la saison.
Parfait.
Salut, au revoir.
Au revoir.
Par actualité nationale maintenant, le frère André a récemment rejoint le club select des saints patrons canadiens. Oui, au grand bonheur d'une femme qui milite depuis des années pour que le petit Gauthier-Nouf devienne le gardien des aidants naturels. On risque tous de devenir des aidants naturels ou d'en avoir besoin un jour. Il y a une réflexion urgente à avoir sur le sujet, affirme Caroline Vadeboncoeur, qui vient de frapper un coup de circuit marketing pour sa cause. Madame Vadeboncoeur, 65 ans, qui explique avoir entrepris des démarches il y a 6 ans afin que Saint-Frère André devienne le patron des aidants naturels. Né Alfred Bessette en 1847, Saint-Frère André a jusqu'à sa mort en 1937, rappelons-le, accueilli des milliers de personnes souffrantes sur le Mont-Royal, où plusieurs guérisons miraculeuses auraient eu lieu selon l'oratoire Saint-Joseph. Peu après sa canonisation en 2010, Caroline Vadeboncoeur, coordonnatrice du regroupement des aidants naturels du comté de l'Assomption, a transmis son idée à l'oratoire, qui a ensuite approché les évêques et confirme la porte-parole Danielle Decel, Madame Vadeboncoeur, qui a elle-même été aidante naturelle pendant 30 ans auprès de sa mère, atteinte de diabète. À l'international maintenant, des écouteurs équipés d'un système sensoriel alternatif capable de traduire les sons en vibrations. Eh bien, c'est désormais disponible pour les personnes sourdes et malentendantes. C'est une innovation de pointe imaginée par une créatrice israélienne. Et ça s'appelle, ce nouvel accessoire très sophistiqué, Vibeat, en bon israélien. Ça s'écrit V-I-B-E-A-T. Évidemment, c'est pour que tout le monde puisse se le procurer. Si vous allez sur le site internet de Vibeat, V-I-B-E-A-T, vous allez pouvoir, j'imagine, exactement comprendre de quoi il s'agit et profiter vous-même peut-être de cette musique façon portative grâce au toucher. C'est composé d'un système sensoriel qui traduit les pistes audio en vibrations, c'est relié par Bluetooth et ça se décline en plusieurs éléments de quoi ? Eh bien de bijoux. au design vraiment soigneusement travaillé, un collier, un bracelet, une broche, attaché à un aimant circulaire. Chaque pièce du dispositif couvre une partie du spectre sonore à différentes fréquences, permettant à l'utilisateur d'expérimenter la musique grâce au contact avec son corps. C'est complètement détachable et il peut être porté à n'importe quel endroit. Et l'expérience sonore partagée avec les personnes entendantes, puisque le Vibeat dispose d'un branchement vers des écouteurs classiques. Alors, c'est vraiment fantastique. Je vous rappelle, je vous épelle hein, le nom de cela, Vibeat, c'est V-I-B-E-A-T. Le speed dating de l'accessibilité universelle à Montréal, c'est une invitation à venir participer à cette rencontre avec l'innovation sociale. Ça va se passer le jeudi 20 octobre de 13h30 à 15h30 au complexe récréatif Gadebois, au 5485 chemin de la Côte-Saint-Paul à Montréal. Vous êtes conviés à cette nouvelle édition du speed dating de l'accessibilité universelle. Cette activité soutenue par Centraide du Grand Montréal se renouvelle à chaque année et cette année, on vous offre la possibilité de venir rencontrer des acteurs de l'innovation sociale intéressés par le champ d'expertise de l'accessibilité universelle. C'est une façon avant-gardiste de dynamiser des projets, de multiplier les partenariats et de permettre l'émergence de collaboration et de penser autrement l'innovation sociale. Alors, c'est quand? Ce jeudi 20 octobre de 13h30 à 15h30. C'est où? Au complexe récréatif Gadebois, 5485, chemin de la Côte-Saint-Paul à Montréal. Le grand frisson pour la cause des troubles d'apprentissage entre amis et en famille, en venant profiter des attractions et d'un moment de pur plaisir à la ronde, vous appuierez la cause et soutiendrez les 800 000 personnes touchées par un trouble d'apprentissage au Québec, soit une personne sur 10. En collaboration avec le parc d'attractions La Ronde, l'Institut des troubles d'apprentissage est fier d'organiser, dans le cadre du mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage, sa première journée de sensibilisation aux troubles d'apprentissage, le Grand Frisson pour la cause 2016. Plus nombreux nous serons, plus nous amasserons d'argent pour porter soutien aux personnes aux prises avec ce trouble neurologique permanent et parfois héréditaire. Alors ne perdez plus une minute et venez frissonner en famille le samedi 22 octobre, donc ce samedi qui vient, 2016, dès 11h, en profitant d'un tarif spécial vraiment intéressant. Le tarif sera de 29,50 $ au lieu de 63,99 $. Et pour chaque entrée achetée au parc pour cette journée unique sur le site de l'Institut, eh bien la Ronde reversera 2,50 $ pour la cause. Alors invitez vos familles, votre famille, vos amis à venir partager cette journée unique conçue pour vous ou pour un proche, devant composer au quotidien avec ce qui, rappelons-le, est un défi permanent. Voilà, c'était les Par Actualité en ce 18 octobre 2016. Vous écoutiez cela sur les ondes de Canal M. C'était animé par Clotilde Say qui remercie son équipe, Jean-Sébastien Laliberté et Anne-Laure Janson. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, à 11h30.